podcast festival à la Gaîté Lyrique. Les masterclass.
Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents pour cette rencontre avec l'autrice Claire Richard. Alors Claire Richard, vous êtes autrice non seulement de fiction, mais aussi de documentaires. On va citer par exemple Les Chemins de désir, que vous avez peut-être écouté. Est-ce qu'il y a des auditeurs des Chemins de désir dans cette salle ? Oui, quelques-uns. Les Chemins de désir, c'est une rétrospective du cheminement personnel de Claire Richard par rapport à son histoire sensuelle, sexuelle, avec énormément d'humour, d'illustrations sonores, de savoir-faire radiophonique, on va en parler tout à l'heure. Vous avez peut-être aussi écouté La dernière nuit d'Anne Bonny ? Oui ? Non ? Quelques-uns ? Ouais, c'est... Un peu, ouais, je vois quelques mains quand même. Et là, c'était une fiction, vraiment un blockbuster d'Arte Radio, hein, je crois qu'on peut le dire, parce que c'était leur plus gros budget.
Je crois, ouais.
Voilà, et c'était la vie de la femme pirate Anne Bonny, mais pas seulement ça, parce que c'était une fiction musicale, parce que c'était parcouru d'interrogations et de réflexions historiques et sur la façon dont on traite, dont on raconte l'histoire, dont on regarde les femmes. C'était très riche. On peut citer aussi des documentaires sur la blanchité pour Binge Audio, sur la santé pour France Culture, mais on va y revenir. Mais tout d'abord, je vous propose de commencer par un premier son, comme ça, direct, on se met dans l'ambiance. Et c'est un son qui s'appelle Synesthésie. Est-ce qu'il y a des gens qui l'ont écouté dans cette salle ? Ah, là, beaucoup moins. Oui, je vois une main. C'était votre premier son.
Oui.
Voilà, c'était sur Arte Radio en 2014 et c'était mis en onde par Arnaud Forest. Ça dure 4 minutes.
Pour moi, l'année, c'est une ellipse. Que je vois en perspective dans l'espace, autour de moi, comme si je la portais autour des hanches comme un cerceau un peu déformé.
Pour moi, l'année ressemble très clairement à une chambre à air qui se dilate et se rétracte en fonction des saisons.
Il faut que tu imagines le circuit que tu avais de voitures télécommandées. Ou alors une miniature de montagne russe. Janvier est très bas et ça monte tout doucement de janvier à avril, c'est une pente douce. Ensuite, il y a une pente raide, comme une remontée de montagne russe avant la chute, qui est l'été. Juillet, août, c'est très raide. Et ensuite, il y a un plateau. C'est l'automne qui monte doucement jusqu'à l'hiver. Et paf, on descend de décembre à janvier.
C'est assez étonnant de se représenter le temps comme ça, c'est-à-dire de manière complètement circulaire, comme un anneau, mais un anneau complètement infini. Donc c'est géométriquement une forme impossible.
C'est pas la vis d'Archimède, mais c'est ce genre de choses du Palais de la Découverte, là, où tu te dis, mais ça fait un tour à chaque fois, ça revient, alors qu'en fait, c'est mon esprit, ou physiquement c'est possible que ce soit fermé ?
J'ai aucune autre représentation du temps qui me viendrait comme ça. Et je m'imagine bien en train de placer des événements comme ça dans l'année sur ce schéma il y a déjà très longtemps.
Cette idée que derrière l'unité d'année, les gens voient des choses extrêmement différentes, se représentent des trucs qui n'ont rien à voir. Ça, ça a un nom, quoi, c'est la synesthésie temporelle. Et c'est une forme d'association involontaire entre des unités de temps et des formes. En fait, c'est ça qui se passe toute la journée. C'est-à-dire qu'on utilise des mots et on est persuadé qu'on veut dire la même chose, alors qu'en fait, chacun, à ce moment-là, dans la conversation, amène son petit monde perso et ses petites représentations qui peuvent n'avoir absolument rien à voir les unes avec les autres. Il n'y a aucun moyen de le savoir.
Je me représente l'année comme une frise.
Comme une sorte de... Alors, de ruban,
c'est le rose pâle d'une pente douce.
Qui serait disposé en forme de rectangle.
Et avec une succession de carrés.
comme si chacune des fractions de cette chambre à air était une case.
Mars est plutôt couleur fauve.
Et on s'engage dans un nouveau côté comme ça du rectangle.
C'est la fin d'une remontée mécanique très dure et après... Je reprends toujours mon souffle en janvier, tu vois.
Arte Radio. Point. Com.
On attendait le point com. C'est un bon souvenir ou c'est dur à...
Ouais, c'est gentil.
Ou c'est difficile à réécouter un son qu'on a fait à ses débuts.
En fait, Dieu merci, c'est surtout beaucoup Arnaud Forest qui l'a monté. Je pense que c'est pour ça que j'ai pas honte en le réécoutant. Non, c'est plutôt un bon souvenir en fait. Mais là, en l'écoutant, je mesurais à quel point Arnaud, donc Forest, un des réalisateurs d'Arte Radio, avec qui c'était ma première collaboration. En fait, il avait vraiment. C'est lui qui a amené toutes les musiques. Derrière tous ces bruitages-là, et aussi l'idée à la fin de quand même commencer à déstructurer les paroles et le fait qu'elles se tissent les unes avec les autres. Donc en fait, là, juste, c'est plus que je mesure à quel point je connaissais rien au montage quand j'avais présenté le pré-montage de ce son avant qu'il arrive entre les mains d'Arnaud.
Est-ce que c'est facile de placer, entre guillemets, c'est pas un produit, c'est un peu vulgaire, mais de faire accepter l'idée d'un son comme ça à Arte Radio, comment vous y étiez prise ?
En fait, ça avait été assez facile. J'avais rencontré Sylvain Gire dans un festival où j'avais un boulot, je crois que j'accompagnais des invités d'un point A à un point B, et on avait discuté, et il m'avait parlé de l'existence d'Arte Radio, et il m'avait dit qu'il cherchait des sujets, enfin voilà, plutôt originaux, pas radio, justement pas... Et j'avais cette idée-là, je sais plus trop pourquoi, et en fait ça avait bien matché. D'ailleurs j'avais un autre sujet, parce que c'était le moment d'Occupy Wall Street, donc j'avais un autre sujet qui était plus sur des occupations illégales de bâtiments, et, avec un prêtre militant, enfin un truc qui cochait plein de cases chouettes de documentaires gauchistes. Et pour le coup il m'avait dit, bah ça c'est intéressant, mais c'est pas pour nous, par contre ton truc sur la représentation mentale des années, ça oui. Et en fait, après, ouais, ça a commencé comme ça.
Vous ne connaissiez pas Arte Radio à ce moment-là ?
Pas du tout. Pas du tout, du tout. Mais c'était en 2014, donc, 2013. Donc, ça restait quand même assez confidentiel. Et moi, j'avais jamais pensé à faire de la radio. J'avais jamais pensé à faire de la création radio. Enfin, d'ailleurs, si je pigeais un peu pour une émission de radio sur France Culture, mais de façon très classique de journalisme, en fait. Je faisais des entretiens avec des chercheurs... sur des sujets numériques, parce que c'est ce sur quoi je travaillais à l'époque. Mais la création radiophonique, je ne connaissais pas du tout. Et c'est vraiment en rencontrant Sylvain Gire par hasard que j'ai découvert que ça existait.
Et vous n'étiez même pas auditrice particulièrement ?
Non, il n'est pas dans la salle, donc je peux le dire. Non, pas du tout.
Non, mais ni d'Arte Radio, ni de la radio au sens large, parce que vous aviez des mentors, des références.
La radio de flux, ça oui, les émissions oui, bien sûr, ça depuis toujours. Alors j'habitais aux États-Unis, donc j'avais quand même à ce moment-là, et donc j'avais découvert les podcasts américains. Donc j'écoutais beaucoup parce que vraiment je vivais aux États-Unis, donc j'écoutais Radiolab beaucoup et j'écoutais This American Life. Donc j'avais j'avais eu un peu ce moment de déflagration et d'émerveillement de waouh, en fait on peut faire ça en radio. Je me souviens vraiment avec Radiolab notamment, parce qu'il y avait tout ce truc des bruitages, et en même temps les histoires étaient géniales et on apprenait des tonnes de trucs, et il y avait un effet d'émerveillement constant. Donc ça oui. Mais Arte Radio, alors après j'ai écouté des sons quand il m'a dit oui d'accord on peut le faire, là je me suis dit oh là là, qu'est-ce que ça implique, et donc là je suis allée écouter des choses. Mais non, j'avais pas de cette culture là avant.
Du coup, comment on construit un premier son, ce son, la synesthésie, comment est-ce que vous l'avez bâti, avec quelle écriture, et en quoi est-ce que l'équipe d'Arte Radio a pu vous aider, parce qu'ils sont quand même spécialistes, pour ceux qui ne connaissent pas le mode de fonctionnement, dans l'accueil des jeunes auteurs, et il y a un accompagnement, presque une formation.
Oui, tout à fait. Alors moi, j'habitais pas en France à ce moment-là, donc j'avais... En fait... Je revenais, donc oui, ils nous prêtent... Donc moi, j'avais jamais fait de radio, j'avais enregistré un petit peu, si j'avais quand même un peu fait des entretiens donc pour cette émission dont je parlais, qui était Place de la Toile sur France Culture, mais j'avais jamais fait de radio avec, avec les standards de prise de son de d'Arte Radio. Donc c'est quand même un endroit, et c'est encore le cas, où on prête du super matos, des super micros, des nagras, à des grands débutants. Et ce qui est quand même fou, en vrai. Et une petite formation, mais quand même assez basique, de bon, bah là, le nagra, machin comme ça. Ton micro, tu le mets plutôt là, il ne faut pas que ça pop.
Bon. Mais que ça bop.
Que ça fasse pop, comme ça. Mais c'était vraiment une formation quand même assez basique. Et donc j'ai enregistré les voix là qui sont vraiment des amis, donc tout était très facile à faire. Et après je me suis lancée dans une, enfin j'avais vraiment des idées de réalisation nulles et donc et très littérales. Donc je m'étais dit ah oui super, il y a des montagnes russes. Je me souviens qu'à l'époque j'habitais, bref j'avais fait une heure de vélo pour aller enregistrer une pauvre montagne russe avec mon zoom, donc un son absolument inutilisable, et que quand j'étais revenue avec une idée de son A, de réal nul, et B, une réalisation vraiment nulle parce que rien n'allait, ils ont été vraiment assez gentils, mais on n'a pas utilisé ça. Et donc non, il y avait quand même ce truc où moi je l'ai monté, je me souviens pas du tout à quoi ça ressemblait, mais en tout cas je pense que c'était, j'avais un peu cette idée, voilà, les gens parlent, et puis après l'idée que je dis à un moment de, bah en fait c'est un peu une métaphore de la façon dont on communique, c'est-à-dire on utilise des termes et en fait chacun a derrière des projections mentales différentes, ça finissait le son, c'était très basique. Et en fait vraiment Arnaud avait beaucoup retravaillé, et je me souviens très justement, j'y repensais là, lui il avait une banque de sons qu'il avait enregistré lui-même, de tous ces petits sons, la mécanique, c'était je crois quelqu'un, un artiste qui avait tout un tas de machines chez lui, donc il s'était amusé à enregistrer tous ces sons. Alors je sais plus si c'était Arnaud ou si c'était l'artiste qui lui avait passé les sons, et en fait lui il a vu l'occasion de pouvoir utiliser cette banque de sons, donc ça a été vraiment, ouais, c'est vraiment monté par Arnaud. Mais en fait le processus, et je pense que c'est toujours le cas, c'est-à-dire qu'on a quand même la possibilité en tant que jeune autrice, auteur, de faire un pré-montage. C'est-à-dire quand même, oui, bah, je me souviens d'être complètement désemparée face à qu'est-ce que c'est qu'un logiciel de montage. Tout était très, très compliqué. Mais donc, on produit quand même un premier montage, ce qui n'est pas le cas dans d'autres structures. On ne travaille pas directement avec un réel. Et après, on passe en cabine, dans le studio vraiment de montage, de mix, avec un des deux réalisateurs, où là, maintenant, ils sont plus que deux. Et là, on retravaille un peu le son. Et en fait, juste après, j'ai fait une fiction pour eux. Donc, je n'ai pas repris le fil documentaire avant quelques années, où là, j'avais quand même un peu appris des trucs. Et ce que je pensais aussi en écoutant, et c'est assez frappant, c'est que c'est 2014, donc, et donc il n'y a pas de narration. Et c'était aussi le moment très, très fort où vraiment, il n'y avait pas de narration dans les sons Arte Radio. Et c'était presque un principe esthétique et éthique. Et quand j'ai refait des docs quelques années plus tard, c'est des documentaires à Arte Radio qui reposent sur une narration, où j'étais, donc c'était une esthétique que je connaissais mieux, quoi.
Eh ben justement, vous me tendez la perche, on va avancer de quelques années. On va écouter un deuxième son, cette fois c'est juste un extrait, puisqu'il s'agit d'une série qui s'appelle Les Chemins de Désir, toujours Arte Radio, en 2019. Alors cette fois-ci, dramaturgie et réalisation, Sabine Zovigian, vous nous expliquerez peut-être ensuite, si vous le voulez bien, les rôles de chacun. Réalisation et musique originale, toujours Arnaud Forest.
C'était il y a 25 ans, et j'étais trop petite pour être incluse dans le camp des femmes. Trop timide pour être dans le camp du jardin. Mon camp à moi était celui de l'ennui, la maladie des filles qui ont peur des garçons et qui aiment trop les livres.
Sans qu'on fasse attention à moi, je suis montée à l'étage de la grande maison.
C'était un monde de couloirs sombres et de chambres silencieuses. Il y avait une grande bibliothèque, de longues étagères remplies d'ouvrages abandonnés par les générations successives. Je connaissais les rayons par cœur. J'avais déjà lu tout ce qui m'intéressait, plusieurs fois, pendant d'autres dimanches ou d'autres samedis.
« Comment vous appelle-t-on, mon brave ?» dit Athos. « D'Artagnan, monsieur. » « Eh bien, Athos, Porthos, Aramis et D'Artagnan, en avant !»
Arsène Lupin, l'insaisissable cambrioleur dont on racontait les prouesses.
1 000 000 000 de 1 000 milliards de 1 000 sabords.
Mais ce jour-là, quelqu'un avait laissé traîner une échelle. Je l'ai escaladée pour fouiller dans les rayons du haut, ceux auxquels je n'avais jamais accès. Je connaissais Tintin, Astérix et Lucky Luke, mais c'était des bandes dessinées comme je n'en avais jamais vu. J'en ai pris une et je suis entrée dans une chambre vide pour la lire. Je me suis allongée par terre, presque sous le lit, cachée par le cadre de bois. Tout était en noir et blanc. Les hommes avaient des épaules carrées et les femmes des seins énormes.
Hey, attrapez-le ! C'est lui, le pervers que nous cherchons !
Il y avait des gratte-ciels et des secrétaires. Et il me semble qu'il y avait quelque part des super-héros.
Oh non ! Ce pervers mord les seins d'une vieille prostituée.
De toutes les pages de cette BD, il me reste 6 cases. La scène se passe dans une soucoupe volante, ou dans une grotte, ou sur une planète abandonnée. Deux femmes sont attachées, mains dans le dos, contre un pilier. Elles ont des jambes immenses et des seins lourds. Elles ont ces corps de liane qu'on voit dans les BD des années 70. Elles sont blondes et elles sont nues. Des cordes leur rentrent dans les chairs, passent entre leurs seins. Une autre femme, de dos, les regarde. Elle est brune. Ses cheveux lui tombent jusqu'au milieu du dos. Elle porte de hautes bottes de cuir. Et elle tient à la main une cravache.
Eh bien...
Non.
Vous avez décidé de ne pas vous rendre?
Jamais. Plutôt mourir.
Elle saisit le menton de la blonde et l'embrasse en lui mordant les lèvres. La blonde ferme les yeux et ploie la tête en arrière.
Ah, bah t'es là, toi. On te cherchait partout. Tu lis quoi?
Rien.
Si. Montre-moi ça.
J'ai trouvé ça dans l'étagère.
C'est pas pour les enfants, ça. Bon, descends, ça va être l'heure de goûter.
Alors, on l'a entendu, la narration est tout autre. Là, c'est du jeu. Vous êtes là, vous prenez l'espace, vous assumez, vous racontez votre histoire. Une autre grande tendance d'Arte Radio.
Ouais, tout à fait. Ben là, pour le coup, le projet, entre-temps, il y avait quand même eu... Je ne suis pas passée de la synesthésie à ça. Il y avait une fiction qui était un peu expérimentale, qui s'appelait « Sans façon de disparaître », où j'avais découvert ce que c'était que la fiction radio. Et donc, j'avais découvert qu'il y avait cette forme incroyable. On pouvait écrire des choses. Après, des comédiennes ou des comédiens les lisaient. Et on travaillait. On était payés pour ça. Donc ça, c'était fou. Et on travaillait avec des réalisateurs. Donc, en fait, j'avais aussi un peu appris, notamment sur la première fiction, la question de l'adresse. Je me souviens que ça, c'était vraiment un truc que Sylvain m'avait dit, qu'il fallait toujours penser à qui on s'adresse, enfin, plutôt, en tout cas, penser que le texte est adressé et trouver une façon d'y répondre. Et donc, les chemins de désir, au départ, c'était... Oui, ça a toujours été un projet personnel, mais avec cette idée quand même d'emblée au début, j'étais encore journaliste à l'époque, et donc avec cette idée un peu aussi journalistique de dire, il faut raconter qu'est-ce que c'est, parce que bientôt, il y aura... plus de jeunes qui n'auront pas d'expérience de grandir, de découvrir l'adolescence sans porno. Donc c'était un peu l'idée que ça valait la peine de raconter cette histoire aussi parce qu'elle était générationnelle et tout ça. Et oui, et après ça a donné ça.
Vous pouvez peut-être nous raconter en quelques mots la genèse du projet ?
Oui. Ben donc du coup au départ donc j'avais dû faire quelques paragraphes à Sylvain Gire en lui disant voilà j'ai cette idée, ça se serait raconté, je sais plus comment j'appelais ça, mais une vie de porno, voilà. Donc j'avais fait un premier synopsis mais donc qui racontait un peu donc les étapes qu'il y a dans la série finale, c'est-à-dire la première image vue dans l'enfance, l'adolescence avec une grande activité fantasmatique mais pas internet, l'arrivée d'internet, l'arrivée des tubes, l'emballement un peu de la machine fantasmatique et des supports et des images à la fois dans l'explosion du porno et dans l'imaginaire. Et ensuite, je pense qu'il y avait déjà l'idée de finir sur le porno sonore. Mais je me souviens très bien que je lui avais envoyé un synopsis qui m'avait dit ouais c'est super mais c'est pas encore de la radio, t'as pas trouvé la forme, et qu'il y a eu quand même un petit moment, il y a peut-être eu 5 mois je crois quelques, où je cherchais la forme. Et ça je pense que c'est important, justement je me disais pour les questions d'écriture en fait, que moi assez souvent j'ai l'impression qu'entre le moment où j'ai le début de l'idée et le moment où en fait la forme elle s'impose, il y a souvent quand même quelques mois quoi de recherche un peu dans tous les sens, qui peut être un peu inquiétant aussi comme moment, parce que on se dit ah j'ai pas trouvé, j'ai une bonne idée mais j'ai pas la forme, ah là là. Et que c'est en lisant un bouquin d'une amie journaliste qui s'appelle Elsa Fener, Je ne sais plus comment s'appelle son livre, mais c'était, elle avait passé une année dans le cabinet d'une sexologue, et elle raconte ça. Et en fait, la métaphore des chemins de désir, elle est dans ce livre. C'est cette sexologue qui voilà. Et après, moi, ça a fait écho à ce, à ce que je savais des chemins de désir, de cette image poétique, des chemins dans la forêt. Et c'est un peu là que tout s'est... En fait, que l'écriture a pu commencer, parce qu'il y avait une métaphore qui tendait le texte, et c'était autre chose que juste une description.
Alors vous avez apporté pour nous le premier synopsis,
ah oui,
en fait, des chemins de désir qu'on va pouvoir vous montrer. Est-ce que vous pouvez nous raconter ça, un peu?
Je ne sais plus si c'est ça. Alors ça, justement, c'est l'étape d'après. Donc ça, en fait, c'est la version avant le passage de Sabine, parce que du coup, j'avais quand même moins d'expérience en fiction radio.
Et Sabine Zovigian.
Pardon, de Sabine Zovigian, avec qui je travaille beaucoup. Mais là, c'était notre première collaboration. En fait, on s'était déjà un peu rencontrés, mais on se connaissait pas. Pas plus que ça. Et donc, moi, j'avais... C'est ça, je crois que ça doit être... Ça, c'est le début. Et donc, on voit, en fait, que c'est quand même assez rudimentaire, parce que j'ai des idées un peu de son, la mouche pour montrer la torpeur de l'après-midi, la pendule, nanana, le bourdonnement des conversations. Il y a un peu déjà le rythme, parce que c'est découpé en paragraphes, mais on est encore très loin... d'un vrai script de fiction radio, a fortiori d'un vrai script qu'on pourrait utiliser au tournage. Et en fait, c'est à cet endroit-là. Donc ça, c'est l'étape que j'envoie. Donc là, j'ai quand même retravaillé, j'ai quand même l'idée des chemins de désir et tout ça. Ça, c'est ce que j'envoie à Sylvain Gire. Donc, il dit banco, c'est super, on y va. Mais on n'est quand même pas du tout à un script. Donc là, je rencontre Sabine. Et on travaille ensemble quelques jours. Et elle va... C'est comme ça qu'elle le disait, faire sortir du texte un peu les indications sonores qui s'y trouvent, mais qui ne sont pas du tout explicites. Après, aujourd'hui, j'écris plus, quand même différemment. Mais voilà, et donc ça, c'est le passage, ça c'est la version après passage de Sabine, et après discussion, parce que pour le coup aussi, l'idée de commencer par... je ne sais plus... si ça commence comme ça ou pas, finalement. Parce que cette idée des chemins de désir, on l'a remis là, ça avait été déplacé. Ça, c'était plutôt une discussion d'équipe. Mais après, tout ce qu'on va voir en italique, l'ambiance, le terrain vague, machin, nappe solaire douce, ambiance fin de repas, ça, c'est le fait d'intégrer aussi, là, un peu plus bas, bribes de discussion, une table qu'on débarrasse, quelqu'un veut de la tarte, ça, c'est Sabine qui les ajoute. Voilà. Et là, on commence à avoir quelque chose. Et en fait, on voit qu'elle découpe à quel point, et ça on va l'entendre, mais par exemple, je me souviens que, pardon, je vous dis tout un peu dans le désordre, mais parce que ça fait longtemps que je ne l'avais pas regardé comme ça. En fait, elle va à la fois vraiment faire une partition à partir du texte, c'est-à-dire travailler même là, même la façon dont elle le met dans l'espace, quoi, les choses se répondent, il va y avoir l'ambiance, le texte. Il y a des endroits où elle va... surtout, là, c'est notre première collaboration, maintenant, on a plus l'habitude de travailler ensemble, mais je me sens justement la notation, l'ambiance fin de repas, sourde comme entendue depuis un coquillage, je crois que c'était quelque chose qui était dans le texte, où je disais j'entends les voix des adultes comme filtrées par un coquillage, un truc comme ça. Donc c'était un mélange d'aller chercher les indications sonores qui étaient déjà dans le texte, et d'autres de vraiment les expliciter. Par exemple, l'idée d'avoir que les voix des enfants, elles vont venir ponctuer la narration, ça c'est quelque chose qui est vraiment formalisé par Sabine. Et ça, ça c'est le document de tournage. Après.
Très bien. On va passer à un... voilà. pas tout ça, mais on va écouter un autre son. On va changer d'univers totalement. Là, c'est un petit peu plus récent. Un projet beaucoup plus lourd, donc on le disait, puisque c'est une fiction extrêmement coûteuse que Carte Radio a dû séparer. En fait, au niveau du budget, elle a dû l'installer sur 2 années d'exercice, tellement c'était un projet pharaonique pour cette
structure. Pour la radio, par rapport au cinéma, on est quand même...
Je suis d'accord.
C'est notre péplum. Échelle.
C'est votre péplum, exactement. Donc ça s'appelle « La dernière nuit » d'Anne Bonny, réalisation Sabine Zovigian et Arnaud Forest, comme par hasard. On va en écouter un extrait.
Ouvre le tiroir du secrétaire. Tu vois le livre rouge, là ? Assieds-toi. Lis le titre.
Une histoire des pirates anglois depuis leur établissement dans l'île de la Providence jusqu'à présent.
Une histoire des pirates anglois depuis leur établissement dans l'île de la Providence jusqu'à présent.
Par le capitaine Johnson.
Par le capitaine Johnson.
C'est où Providence ?
Dans les Caraïbes. Continue.
Contenant toutes leurs aventures, piraterie, meurtre, cruauté, excès, etc. Et un extrait de lois et des ordonnances concernant la piraterie.
Avec la vie et les aventures de deux femmes pirates.
Avec la vie et les aventures de deux femmes pirates.
Mary Read.
Mary Read.
Et Anne Bonny.
Et Anne Bonny.
Va directement au chapitre 8.
Je vais présentement faire le récit d'une histoire pleine d'incidents extraordinaires et dont les aventures peu communes pourraient passer dans l'esprit de plusieurs pour des fictions ou pour un roman fait à plaisir, si la vérité n'eût été avérée par 1000 témoins qui furent présents au procès intenté contre Mary Read et Anne Bonny.
Les prisonnières ont-elles quelque chose à ajouter ?
Qui sont les deux femmes dont je veux parler.
Sont-elles coupables des faits de piraterie, traîtrise et félonie qui leur sont reprochés ? Oui. Ou se déclarent-elles non coupables ?
Non coupables. Oh. Non coupables. Oh.
Prends la plume. Écris. Un complément à l'avis d'Anne Bonny et de Mary Read par Anne Bonny.
Je croyais que vous appeliez Anne Bonneuil.
Elle a beau faire comme si rien ne la surprenait jamais, la gamine. Elle n'a pas pu s'empêcher d'écarquiller les yeux.
C'est qui, Mary Read ?
Une femme que j'ai beaucoup aimée. Lis.
Anne Bonny naquit dans une ville près de Cork, en Irlande. Son père était avocat, mais elle n'était pas légitime. Ce qui semble démentir un ancien proverbe anglois qui dit que les bâtards ont le plus de bonheur.
Tu vois, ce capitaine Johnson, il n'est pas méchant, mais il n'a rien compris, et dès le début. Si j'étais né légitime, on m'aurait mariée à 20 ans, j'aurais été grosse à 22, cocu en même temps, et probablement morte à 40. Le corps difforme, et l'âme est sauvée. Et regarde-moi. J'ai 88 ans, 12 filles, et je meurs riche et comblé. T'es fille légitime, toi ?
Je sais pas.
Alors tu vois, toi aussi, t'as le monde à tes pieds. Je sais pas à qui a parlé Johnson, dans quelle taverne il est allé. Mais il n'est jamais venu me trouver. Si la mort m'a laissé la nuit, c'est pour raconter la vie d'Anne Bonny par Anne Bonny. Tu écris vite, t'es mieux que moi, et j'ai plus beaucoup de temps. J'espère que tu es en forme, parce qu'on a beaucoup à faire. Tu connais les mers du Sud ?
Elle vient d'où l'envie de questionner la vérité avérée par 1000 témoins ?
Pour Anne Bonny, je crois qu'au départ, l'envie c'était de refaire une fiction radio, parce que j'avais adoré le travail avec Sabine et Arnaud. Et en même temps de faire quelque chose de très différent, parce que j'avais pas envie de reparler de sexe, j'avais pas envie de reparler de questions intimes. Et en fait, en cherchant, en lisant des choses, j'étais tombée sur une histoire d'Anne Bonny. Et j'avais été saisie par le côté romanesque, évidemment. Et puis après, c'était en fait en lisant, en comprenant que, enfin, en me disant quand même, c'est bizarre, toutes les histoires répètent la même chose, en allant lire Le Capitaine Johnson, qui est disponible en ligne sur le site de Gallica. Et là. Là, le chapitre, bah, après, c'est tout ce qu'il y a dans la fiction, mais le chapitre qui est consacré à Anne Bonny par ce mystérieux capitaine Johnson qui a assisté au procès en piraterie au 18e. Et vraiment, en fait, c'est quand même très clair quand on commence à le lire, puisque ça passe, le chapitre doit faire 10 pages, et il y en a 5 où il raconte un vaudeville hyper compliqué sur la façon dont le père d'Anne Bonny a trompé sa femme légitime avec la servante. Et en fait, il est absolument impossible que quiconque lui ait raconté ça dans les Caraïbes. C'est vraiment absolument impossible. Et c'était, en fait, c'était un peu le mélange de tout ça, et l'envie de faire quelque chose de genre, avec vraiment un élan fictionnel total, en y allant quoi, avec des pirates, des abordages, des histoires d'amour et tout, et en même temps quand même en le décalant un petit peu, et d'essayer de tenir l'ensemble, ouais, c'était ça un peu au bout d'un moment quand le projet s'est précisé. Le défi aussi c'était de se dire, est-ce que c'est possible de tenir un vrai fil romanesque avec un souffle où on a vraiment le cœur qui bat et tout ça, et en même temps un côté méta. avec les commentaires des historiens, des historiennes sur comment on écrit la tension entre histoire et fiction. Puis à ce moment-là, je lisais un peu des choses d'historiens sur l'histoire potentielle, la fiction en histoire, et je trouvais que c'était assez intéressant. Et en même temps, que cette dimension méta, elle ne vienne pas nous enlever l'émotion. Parce que moi, en tant que spectatrice, auditrice, lectrice, je déteste quand la dimension méta intervient un peu pour me dire ah, t'es tombée dans le jeu, en fait, c'est une pure construction. Voilà. Donc c'était un peu ça le point de départ.
Ça demande une documentation très importante.
Ouais, j'ai beaucoup lu, mais c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Enfin, ça fait partie de la joie, je trouve, d'avoir trouvé une idée, un projet, et d'avoir un côté un peu vortex de lecture. Donc j'ai lu énormément de choses sur Anne Bonny, en fait, pas tant que ça, parce que je me suis vite dit, en fait, il n'y a pas grand-chose en termes de sources historiques. Et pour le coup, j'avais pas envie de lire d'autres histoires sur Anne Bonny. Mais par contre, j'ai lu beaucoup, beaucoup de choses sur la piraterie. Et beaucoup de choses d'historiens, beaucoup de travaux d'historiens et d'historiennes. Et après, voilà, où est venu aussi, c'est préciser l'idée d'avoir les historiens, enfin le débat entre l'historien et l'historienne, puisqu'il y a quand même vraiment des historiographies différentes de la piraterie, entre des versions marxistes qui en font les préfigurateurs des révolutionnaires américains, des anarchistes, etc., et d'autres versions plus contemporaines qui décrivent plus les pirates comme des pragmatiques attachés à faire leur richesse et à réagir un peu en fonction des circonstances. Et je trouvais ça assez intéressant. Et justement, oui, c'est ça, c'est en faisant des recherches que j'ai trouvé un site d'un historien de Floride et qui vraiment, lui, j'avais été extrêmement sceptique sur la figure d'Anne Bonny, mais vraiment. Et je pense qu'une réplique qui est dans la fiction où l'historien dit « Mais alors, je pense qu'elle s'est prostituée, c'est très probable. » En fait, ça vient vraiment de cet historien-là. Et là, je me suis dit « Mais génial !» Lui, c'est vraiment un personnage. Et donc, je pense que c'est lui qui m'a aussi un peu donné l'idée, même si après, j'ai mis dans ses versions méta des questions que moi, je me pose sur qu'est-ce que c'est réécrire des histoires féministes, et à quel endroit on caricature, à quel endroit on dessert. Voilà. Et donc, en fait, leurs débats, c'est aussi des débats que moi, j'ai dans ma propre tête, quoi.
Là aussi, vous nous avez apporté des documents de travail. Ouais. Qui vont nous éclairer certaines étapes. Bon, là, c'est clair. On peut peut-être voir la... Voilà, merci.
Alors ça, c'est vraiment la version finale.
Peut-être avec le micro. Donc là, c'est la version finale.
Ça, c'est la version finale. Donc déjà scriptée par Sabine.
D'accord, donc il ressemble plus à ce qu'on a pu voir les chemins de désir. Peut-être on peut voir la page suivante.
Oui, parce que ça, je pense que c'est la version finale. Ouais.
Est-ce qu'on peut avancer dans le document, s'il vous plaît? Voilà. Et je crois qu'on est au bout. C'est la version finale qu'on avait.
Oui, ça, c'est la version finale. Ça, c'est le script final.
D'accord. Bon, pas forcément. Peut-être
parce que je crois qu'il y avait. Non, mais parce que si, je crois que je l'ai vu tout à l'heure. Il y avait la version. Bon, je sais pas si c'est très intéressant, mais l'espèce de premier jet.
Ouais.
De V1, mais qui doit être avant, en fait, plutôt dans le document. Avant ça, je pense.
Avant ça. Non, je crois que le document commençait par ça.
Ça, c'est le script. D'accord. Bon.
Eh ben, on a le script. On vous montre le script. Mais on peut peut-être parler de la collaboration que vous avez eue avec Sabine Zovigian,
ouais,
et Arnaud Forest, parce qu'il y a un travail quand même de réalisation très très énorme, intense. Il y a de la musique. Il y a, ouais, le choix de mettre non seulement une musique originale très prégnante, mais des chansons. C'est une,
ouais,
espèce de comédie musicale.
Ouais, ça c'était. Ben non, mais j'ai vraiment cette chance énorme de travailler avec Sabine et Arnaud et toute l'équipe d'Arte Radio, mais Parce que ça fait tout, quoi. C'est-à-dire qu'il y avait, je pense qu'il y avait déjà dans le script de départ un peu le personnage de Anne Bonny qui était chouette et l'idée des historiens et tout. Mais effectivement, après, donc en gros, chronologiquement, je pense qu'on a fait une lecture, je pense avec toute l'équipe quand même d'Arte Radio, parce que comme c'était un gros projet, on a fait une lecture avec un peu tout le monde. Ensuite, alors je sais plus si c'était avant ou après avec Sabine, mais donc on s'est assise pendant quelques jours pour scripter. Donc elle, on l'a plus, mais vraiment un peu précisé. Moi, pour le coup, il y avait aussi un peu des trucs, je sais pas, la canne sur les pavés. Il y avait des choses comme ça, le feu dans le bureau. Elle a vraiment déplié. En fait, elle a posé sa dramaturgie sonore. Donc les endroits, là, il y a des indications assez détaillées. Par exemple, je sais plus exactement, mais le vent devient une voile ou des choses comme ça. Et après, alors je ne sais plus exactement comment ils se sont répartis le travail avec Arnaud et Sabine, parce qu'ils ont quand même travaillé vraiment, ils ont monté, enfin ils ont... Enfin, oui, alors il y a eu l'organisation du tournage, et là justement en écoutant l'extrait, je me disais mais quelle chance aussi on a eu avec de si bons comédiennes et comédiens en fait.
Catherine Yégel pour Anne Bonny vieille,
vraiment merveilleux. Parce que pour le coup l'idée d'avoir une voix de vieille qui tenait l'histoire, ça c'était vraiment central. Aussi dans l'idée de faire quelque chose de différent des Chemins de désir, mais aussi de voilà de pas avoir une voix de narratrice d'une trentaine d'années, mais d'avoir une belle voix de vieille. Et c'était merveilleux qu'elle soit d'accord. Enfin, genre, vraiment, ça a tout tenu, puis elle a été d'accord assez vite, parce qu'on avait quand même besoin de savoir très vite qui était, qui allait avoir le rôle principal. Et après, donc, c'est Sabine, avec assistée de Anne-Sophie Bailly, qui ont fait le casting, même si on en discutait et tout ça, mais c'est quand même beaucoup Sabine et avec l'aide d'Anne-Sophie. Voilà, après, il y a eu 3 semaines de tournage, après, il y a eu un long temps de montage où moi, je disparais un peu, et même pendant le tournage, en fait, j'ai assisté un peu par curiosité, mais j'ai pas vraiment de place là-bas. Enfin, je pouvais être là, mais en vrai, c'est aussi eux qui dirigent, et donc c'est bien que j'y sois pas trop. Mais en fait, avec Sabine, on avait déjà pas mal parlé, et puis par ailleurs, on a quand même une collaboration assez merveilleuse et qu'on avait vu pendant les Chemins de désir. C'est-à-dire que j'ai l'impression que moi, j'ai une confiance totale en ses choix. Et j'ai l'impression qu'elle comprend tout à fait. En fait, moi, j'ai des sensations quand j'écris un peu des choses qui vont être plus ou moins claires et qu'elle les comprend. Enfin, on se comprend vraiment très, très bien. Donc, il y avait aussi ce truc, parce qu'effectivement, au bout d'un moment, en tant qu'autrice, parce que là, moi, sur ces cas-là, je ne suis pas du tout réelle, je ne prends pas du tout de son, rien du tout. On laisse son texte, mais voilà, j'ai une confiance immense en ce qu'ils font. Et voilà, et après, il y a eu les musiques de Michael Lyotte, qui était aussi une idée de Sabine, qui sont vraiment géniales. Et oui, et l'idée des chansons, ça, pour le coup, c'était aussi l'idée de Sabine. D'emblée, d'avoir ce côté un peu pop. Et parce que se posait aussi la question, qui était une question et d'écriture, enfin, qui est présente dans l'écriture, et qui était aussi une question de réel, de comment on joue avec la piraterie. En fait, l'histoire de pirate, c'est un genre. Donc, dans la fiction, on joue avec le genre parce qu'il y a des anachronismes tout à fait délibérés. Évidemment, dans la façon dont elle parle, dont Anne Bonny parle, il y a le jeu avec l'archive, il y a les historiens. Il fallait trouver aussi des... Voilà, comment ça se passe en son? Parce qu'on a aussi des sons d'abordage. On avait... voilà, donc la question de faire une comédie musicale, je pense qu'elle vient aussi s'insérer à cet endroit. On fait vraiment du genre, et en même temps, on décale un peu.
Avant de vous laisser la parole pour des questions, on va écouter un dernier son et puis aborder un autre pan de votre écriture. On va sortir un tout petit peu de la fiction, parler du documentaire. On va écouter un extrait de LSD, la série documentaire de France Culture qui s'appelle La Santé Autrement, qui a été diffusée en mars 2023, réalisé par Assia Khalid.
C'était les années, la fin des années 80, et après les homosexuels, la société disait que si le sida était là, c'était à cause des femmes prostituées. Donc nous avions à l'époque une femme qui travaillait rue Saint-Denis qui s'appelle Lydia Bragiotti.
France Culture, 2004.
Qui connaissait beaucoup de personnes à l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, nous ont dit, est-ce que vous voulez nous aider, participer avec nous, voulez-vous faire entendre, mais peut-être que ça serait bien si vous acceptiez de vous faire dépister anonymement. Donc sur 150 femmes qui ont accepté de se faire dépister, 2 étaient concernées par le problème. De là, les personnes de la rue Saint-Denis s'étaient beaucoup mobilisées et on s'est dit... Il y a vraiment un élan, là, il y a quelque chose, ou peut-être se servir de ça pour se faire entendre et voir quels besoins qu'elles ont.
Faire de la santé autrement, une série documentaire de Claire Richard, réalisée par Assia Khalid. Épisode 1, la santé communautaire, d'une pandémie à l'autre.
La rue Blondel, alors là quand même, on va trouver des filles là-dedans. Ah voilà, il y a quand même 2 parapluies, 3. On peut passer devant, oui. Bon, je préfère pas trop parler devant parce que je trouve que c'est pas très respectueux.
Si jamais il y avait
On voyait une femme plus âgée qui aurait été susceptible de connaître.
Oui, mais ça, c'est les vieilles, ça s'est passé en 1990.
Ah bah oui, c'est ça. Non, mais c'est
les petites nouvelles, elles connaissent rien à l'histoire. Hein. Oh, c'est des communautés, c'est des groupes qui ont chacune leur façon de parler, leur rapport à la prostitution. Donc.
Il n'y a pas d'image.
Il y a que le son.
Ah oui, oui, oui.
Il n'y a pas d'image.
Il n'y a pas d'image.
Non.
Pardon.
Bonne journée.
C'était plein de filles. Hein. Il y avait une masse de filles, pas possible.
En France, la santé est d'abord une affaire de médecins et d'experts. La crise sanitaire du Covid l'a rappelé, ce sont eux qu'on écoute quand il s'agit de santé publique et de santé tout court. Il existe pourtant d'autres façons de penser la santé. En partant des expériences et des besoins des personnes concernées, en considérant la santé comme un fait politique et pas seulement le bon état d'un corps. On les appelle santé communautaire, santé participative, parfois aussi médecine sociale ou encore empowerment des patients. Elles dessinent une constellation de pratiques qui déplacent les lignes entre patients et médecins et inventent d'autres façons de pratiquer le soin.
Alors, comment est-ce qu'on écrit quand on doit raconter le réel ?
Parce que pour le coup, moi, j'ai aussi une pratique de journaliste. Alors, de moins en moins, mais c'est plus... Disons que c'est plus classique. Mais c'est plus... En fait, là, c'est un LSD, donc c'est plus une... un format de production qui est vraiment particulier. C'est-à-dire que... Enfin, pardon, ça répond pas tout à fait à la question, mais... écrire le réel... Là, en fait, j'ai l'impression que c'est des choses où je suis... C'est plus... Là, c'est un sujet que je suis depuis que je travaille depuis des années, alors plutôt dans des livres ou dans des articles. Donc, ces enjeux de santé communautaire, comment on fait santé autrement, qu'est-ce que c'est la santé politique. Et là, du coup, c'est aller interviewer des chercheurs, un peu penser des situations. C'est aussi des choses avec lesquelles, et là, je me disais, ah là là, ça s'entend vachement. Bon, pour le coup, j'ai pas trouvé cringe mon tout premier son, mais celui-là, si. Mais bon. Ce qu'on entend, en fait, c'est effectivement toute la version documentaire, c'est quelque chose que je fais moins et avec lequel, qui représente beaucoup plus un défi, qui m'inquiète plus que la fiction.
Pourquoi ça représente un défi ? Est-ce que c'est plus compliqué à mettre en scène, à manipuler ? Quel rôle on se donne par rapport à ce qu'on raconte ?
Ouais, je pense que moi, même quand j'étais journaliste pour des sites web, j'ai toujours été très marquée par l'asymétrie qu'il y a entre la position de journaliste ou documentariste et le sujet qu'on interviewe. Parce que j'étais journaliste culture pour le site Rue 89 pendant quelques années, donc j'écrivais beaucoup parce qu'on devait écrire tous les jours. Et j'étais quand même régulièrement frappée par le fait que je pouvais faire dire à la personne, pas n'importe quoi, mais que je pouvais mettre la citation où je voulais dans le papier, je pouvais lui donner raison ou lui donner tort juste par un contexte. Et c'est quelque chose que je continue à trouver. En fait, je pense que ça m'a toujours un peu frappée en documentaire, l'asymétrie. Et je pense qu'il y a plein de façons de faire du documentaire qui... j'ai l'impression que comme moi, j'en suis très consciente, je suis souvent assez mal à l'aise quand j'entre dans des situations de documentaire. Parce que je me dis, en fait... Moi, j'arrive, est-ce que les gens ont envie de me raconter ? Est-ce que je ne suis pas en train de prendre leur histoire pour, moi, en faire un son qui va me profiter à moi parce que ce sera signé de mon nom ? Enfin, je suis toujours hyper... j'ai l'impression qu'il y a un abîme éthique qui n'est vraiment pas très loin. Alors que la fiction, c'est de la fiction, c'est moi qui l'écris, les enjeux sont plus clairs. Et en même temps, je me suis redit, en faisant ce LSD sur un sujet qui m'importe, que je connais... Et qui a besoin d'être défendu, qu'en fait les gens étaient contents, enfin les gens qui ont accepté de nous parler étaient contents en fait de ça, étaient contents que ce soit sorti, étaient contentes d'entendre leurs paroles et leurs pratiques publicisées. Mais je suis toujours prise entre ces deux-là. Donc j'ai l'impression que souvent, comme je suis pas hyper à l'aise, ou il me faut un peu de temps pour être à l'aise, je me dis ça va s'entendre et donc les gens sont moins à l'aise. Donc c'est pour ça que je trouve ça plus compliqué pour moi. Sauf les documentaires à la première personne. Mais bon, ça a une limite quoi.
On va laisser la parole au public pour des questions. En avez-vous pour Claire Richard ? Je vois qu'il y a un micro. J'ai une question en haut à gauche. Merci. Voilà.
Oui, bonsoir, merci beaucoup déjà. J'ai une petite question, parce qu'en fait, ce qui m'a un peu frappée, c'est peut-être parce que je viens plutôt de la fiction audiovisuelle, mais quand on a vu le script à l'écran, vous avez dit c'est la dernière version, et là vous avez dit Sabine a écrit ça, 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 j'ai pas participé au tournage, etc. J'ai l'impression, même si vous travaillez en confiance, etc., qu'il y a quand même une dépossession assez rapide en tant que scénariste de fiction, podcast, qui a peut-être moins en audiovisuel, quoi, que quand même l'intervention du réalisateur ou de la réalisatrice est quand même très en amont de l'écriture. Voilà.
Oui, alors je comprends, mais en réalité, ce n'est pas du tout le cas, parce que là, tout se fait... Parce que, en fait, je pense quand même que en fiction radio, c'est l'écriture qui tient tout. C'est-à-dire que la réale, elle est essentielle. Attention, je ne pense pas ça, mais je pense quand même que l'écriture, elle s'entend tout le temps, que ce soit les dialogues, que ce soit les narrations, etc. Donc, je trouve qu'il y a moins... Moi, je ne me suis jamais sentie dépossédée. Et enfin voilà, la première chose. Ensuite, sur nos façons de travailler, en fait, tout ça, c'est vraiment des choses qui sont faites en aller-retour. Après, moi, c'est ça que je ne l'ai pas redit, mais on a fait énormément d'aller-retour pendant le montage, en fait. J'ai écouté les V1, les V2, les V3, les V4. Et comme par ailleurs, on travaille ensemble depuis longtemps, il y a aussi cette confiance-là. Après, je pense qu'il y a d'autres endroits en fiction, à France Culture, par exemple. Bon, c'est plus quand on rend un texte, ça va dépendre des rapports avec les réalisatrices, réalisateurs, mais on peut plus, le rôle peut plus s'arrêter là. Mais au contraire, moi j'ai l'impression par rapport à ce qu'on peut me dire des scénaristes, alors je connais pas plein de scénaristes de fiction audiovisuelle, mais qu'ils sont plus facilement, ils disparaissent plus à l'étape du tournage, j'ai l'impression, que les auteurs radio. Bon.
Oh, on a plein de questions par là-bas.
Déjà, merci pour la masterclass, vraiment hyper intéressant. Ma question elle porte aussi sur le processus d'écriture. Je voulais savoir si vous procédiez par différentes étapes d'écriture très balisées, pitch, synopsis, traitement, et ensuite le script, ou si vous sautez ces étapes-là, et aussi combien de temps pour la dernière nuit d'Anne Bonny, ça vous a mis tout le temps d'écriture.
Les deux derniers, je crois que j'avais pas fait de pitch. Et moi, en général, je crois que je préfère commencer par l'écriture, et parce que j'ai l'impression que mes meilleures idées, elles me viennent quand j'écris. Là, l'idée des historiens... en fait, tout est un peu venu parce que dans le mouvement de l'écriture, et comme en fiction radio, il y a vraiment ce ping-pong, ce côté vraiment dialogique, d'apporter de la contradiction, il y a un personnage qui arrive et tout ça. Moi, j'ai l'impression que la vivacité et l'idée... Pour moi, elle vient plus dans l'écriture. Et après, par contre, j'avais un synopsis, parce que comme ça allait raconter l'histoire d'Anne Bonny, qui, malgré toutes les critiques faites à Johnson, en vrai, elle suit l'histoire donnée par Johnson. Donc j'avais un peu un plan de me dire, l'épisode 6, enfin je sais pas, l'épisode 3, c'est la tempête, l'épisode 4, elle arrive à Charleston, mais pas sans trop savoir plus ce qui se passait à l'intérieur. Et là, la dernière que j'ai faite, que j'ai finie en septembre, qui est un truc pour France Culture, on avait dû écrire un peu un petit synopsis, mais assez court, parce que c'est un unitaire. Enfin, ça va être en 2 heures, mais... Et donc là, j'avais fait un petit synopsis quand même. Et qu'effectivement, j'ai trouvé assez utile, mais parce que j'ai dû écrire assez vite pour m'y référer. Mais dans les faits, je trouve que c'est plus... Voilà. Moi, je préfère avoir des idées en écrivant des personnages. Les personnages, ils viennent plus que moi quand j'écris. Et après, sur le temps d'écriture... Oh, je sais pas, mais parce que j'ai pas fait ça à plein temps, mais je dirais, en vrai, je sais pas. Enfin, la première, je pense, ça a dû mettre un an, mais j'étais pas à plein temps, quoi. Entre les deux premiers épisodes qui étaient écrits, que j'ai envoyés à Sylvain, sur la base desquels on a dit OK, super, on lance le projet. Ça devait être en janvier-février 2020. Ensuite, il y a eu le Covid. Là, je me sens que j'ai dû écrire 3, 4 et 5. Après, bon, j'étais enceinte, machin. Il y a eu congé maternité, tout ça. Enfin, tout ça pour moi. Et après, et je l'ai fini à la fin de l'année. Donc peut-être si on mettait tout bout à bout, ça ferait peut-être 3-4 mois. Quelque chose comme ça.
Je crois qu'il y a qu'il y a plusieurs questions. Merci.
Bonjour. Merci Claire et merci Laurence. Alors, j'ai une question assez précise. J'ai écrit une pièce de théâtre que j'aimerais beaucoup adapter en podcast. Mais c'est un seul en scène. Donc, avec des parties chantées. et une partie dansée. Je voudrais avoir votre avis sur les écueils d'une écriture théâtre versus mise en onde, et puis peut-être aussi quelques conseils pour optimiser l'histoire, sachant que c'est une histoire qui pourrait être traitée de façon documentaire, puisque c'est une histoire... c'est pas de la fiction, en fait, c'est l'histoire d'une femme de la vie de tous les jours, sans forcément pouvoir vous en dire plus. Merci.
Alors, je sais pas trop sur la question des écueils des écritures théâtrales à la radio, puisque je connais moins ça. Par contre, je pense que vraiment, je disais cette question de l'adresse. Je pense se poser la question de l'adresse, et pas forcément un tu, c'est pas ça, mais que j'ai l'impression qu'il faut quand même que ce soit adressé. À Arte Radio, on se pose beaucoup la question parce que c'est sur du web, donc on se dit que c'est particulièrement volatile. Enfin, je veux dire, c'est du podcast natif, de retenir l'attention. Moi, j'ai l'impression quand même que, et sur un seul en scène, je me dis en fait, il faudrait trouver, faut créer des contrastes, il faut créer des ruptures de rythme. Enfin, c'est des grands mots, mais j'ai l'impression quand même que se pose la question surtout si ça va être une forme qui est pas sérielle, mais peut-être un unitaire. En fait, soit le découper d'une façon sérielle, avec évidemment quand même quelque chose de l'ordre d'un. En tout cas d'une promesse qui fait revenir, j'allais dire un cliffhanger, mais c'est pas forcément aussi mécanique que ça, mais en tout cas une promesse pour qu'on ait envie de revenir. Moi je dirais ça, la question des rythmes, du coup, de bien les travailler, il faut quand même relancer l'attention, en fait. Après il y a aussi d'autres choses, il y a la musique, il y a la réalisation, il y a le jeu, mais quand même penser ces variations-là. Et j'avais pensé à autre chose, ah oui, moi je pense quand même, mais là c'est le côté... on fait du podcast, et pas de la radio de flux, pas non plus des pièces sonores où la réception est différente. Moi, je me dis quand même, il faut qu'il y ait une promesse à l'entrée, un truc quand même assez saisissant, et ça peut être de plein de façons différentes, pour que les gens aient envie d'écouter. Mais bon, ça, c'est aussi peut-être une déformation Arte Radio.
Parce que quelle est la différence entre une pièce sonore et un podcast fiction?
En fait, ce que je vous dis par pièce sonore, c'est il y a des pièces qu'on va écouter dans des galeries ou dans des sessions d'écoute et qui sont plus, ou j'en sais rien parce qu'il va y avoir une installation multicanale et qui sont plus destinées à être écoutées in situ ou à être écoutées dans des émissions consacrées à la création sonore. Et en fait, là, l'horizon d'attente d'écoute ne va pas être le même. Et donc, c'est pour ça que je pense que c'est important de savoir où, ou en tout cas de se poser la question. Dans quel endroit elle va être écoutée, parce que je pense que justement comment on saisit l'écoute, comment on l'installe, elle va pas être la même. Et que si on est sur un écosystème de pur podcast, je pense que quand même il faut se poser cette question de comment on attrape l'attention. Et de fait, Anne Bonny, il y avait vraiment ce truc de j'ai vu la mort dans le quartier français, bon, j'avais envie de la mort et tout ça, mais il y avait quand même un peu cette idée de poser d'emblée quelque chose qui soit assez fort pour qu'on sache qu'elle va mourir, que voilà, des choses un peu comme ça, quoi.
On va prendre une dernière question. Bonjour, merci beaucoup. Moi, ma question, c'était aussi une question sur l'écriture, et notamment sur la particularité d'écriture d'une fiction audio, parce que je me dis, en fait, comparé à l'écriture romanesque où finalement on n'a qu'un outil, c'est les mots. L'écriture audiovisuelle où on va dire on en a trois, les mots, le son et l'image, là on en a deux. Et donc je me demandais, est-ce que vous pouviez nous en dire un petit peu plus sur le jeu qu'il y a entre ces deux outils-là pour raconter un récit, parce qu'il y a plein de sons qui peuvent nous dire beaucoup de choses. Comment est-ce qu'on équilibre? Comment est-ce qu'on sait, tiens, ça passerait mieux en son et ça passerait mieux en mots? Est-ce que vous pouvez nous dire deux, trois choses sur ça?
Sur comment on utilise les outils de la palette de la fiction radio.
Ouais, voilà.
Et moi j'ai l'impression que c'est beaucoup quelque chose qui vient dans la collaboration avec avec les réalisatrices. Ouais, comment dire? Parce qu'en fait j'ai l'impression que ça c'est justement tout le travail de la réalisation. Moi, vraiment, je me suis justement quand j'ai découvert que cette forme existait, que c'était merveilleux parce qu'on avait plein de On avait justement un peu tout ça. Non, je réfléchis, qu'est-ce que je peux dire moi? Parce qu'en vrai, j'ai l'impression que ce serait quand même plutôt un truc, une question de réel. Non, je pense que ce qu'on peut penser au stade de l'écriture, c'est les allers-retours, quoi. Ouais. En fait, quand même penser les plans. Enfin, moi, je fais beaucoup de narration, mais ça revient à cette question de aussi parce que moi, je viens plutôt de l'écrit à la base. Je fais des études de lettres. Mon médium le plus le plus confortable, le plus familier, c'est l'écrit. Mais ouais, voilà, penser les plans, en fait, qu'il y a, il peut y avoir une narration, mais qu'est-ce qui, il y a, enfin, en fait, c'est ça, penser les plans et les contrastes. Qu'est-ce qui peut jouer en même temps et qui va, et que j'ai pas du tout assez exploité, d'ailleurs, je trouve, avec du recul. Dans cette fiction, en fait, j'aurais dû plus exploiter le contraste entre ce qu'elle dit en narration et ce qu'on entend dans les scènes. En fait, c'est ça qui est assez passionnant, c'est que chaque élément de la constellation, en fait, des outils, peut venir ouvrir un espace où, ou en fait complexifier ce qui est dit parce qu'en fait le son va venir en écart. J'ai l'impression que c'est plus dans ces tensions-là. Et après, sinon, faut parler avec des réalisateurs et des réalisatrices de leur métier. Mais voilà, et en fait, c'est aussi ça la conclusion, c'est qu'il faut travailler avec d'autres gens. Parce que c'est ça qui est merveilleux avec la radio, en vrai. C'est bateau, mais c'est vrai.
Merci beaucoup. C'est une très jolie conclusion. Merci beaucoup, Claire Richard.
Merci beaucoup.
Merci à vous. Et bonne suite de festival.